Alors, on accueille Fabrice Epstein qui vient de publier Black Music Justice. Donc, vous êtes avocat d'affaires, vous écrivez sur les relations entre musique et justice, et là particulièrement sur la black music, un livre très agréable parce qu'il est beau en plus, papier glacé, des photos, et avec une évolution à la fois chronologique, par style de musique, et puis avec des thématiques. D'abord, avant de commencer, pour qu'on sache bien de quoi on parle, qu'est-ce que la black music? Comment vous la définissez?
C'est très dur à définir la black music, parce qu'on y met beaucoup de choses. Est-ce que c'est une musique qui est chantée, écrite par des Noirs? Je pense que oui, déjà c'est aussi simple que ça. Et moi, je ne sais pas si une attitude, mais le plus simplement, et pour ne pas entrer dans des polémiques vaines et inutiles, je dirais que c'est une musique écrite et chantée par les Noirs américains surtout.
Alors, est-ce qu'il y a des thématiques? Est-ce qu'il y a des questions vraiment transversales? C'est-à-dire, vous allez des années 30 à nos jours, en gros. Est-ce qu'il y a des problématiques transversales liées à la black music depuis le blues, j'allais dire, jusqu'au rap?
Alors, il n'y a pas de problématique vraiment transversale, mais il y a une évolution que je trouve intéressante, c'est que dans les années 30, les musiciens noirs sont sous la coupe des blancs, que ce soit les blancs managers. Ensuite, ils vont être copiés, beaucoup par les musiciens blancs, et ils vont réussir à prendre une autonomie, je dirais, avec un rap qui fait gagner beaucoup d'argent aux artistes et qui va renverser le rapport de force entre noir et blanc. Donc c'est, il n'y a pas de problématique spécifique judiciaire ou juridique avec les artistes noirs, si ce n'est qu'ils sont beaucoup plus pillés que les blancs, donc en général les contrats leur sont beaucoup plus défavorables. Et d'ailleurs on le voit, il y a un glissement qui se fait. Par exemple, il y a un manager de jazz qui s'appelle Norman Granz, dont je parle dans le bouquin, qui est le type qui a créé le label Verve. Lui a beaucoup insisté pour que ses artistes noirs soient payés de la même façon que ses artistes blancs.
Alors on est à quelle époque là?
On est dans les années 50. C'est vraiment le grand moment développement du jazz. Et c'est même quelqu'un dans les endroits où il y a de la ségrégation qui fait plus ou moins signer et accepter ses conditions générales à ses auditeurs. Et il leur dit, c'est très simple, si vous n'êtes pas prêt blanc à vous asseoir à côté d'un noir, la porte est grande ouverte. Donc on a des gens aussi dans ce monde qui participe à la lutte pour l'égalité aux États-Unis. Et ce Norman Granz en est un des monuments, si je puis dire.
Oui, voilà, c'est un monument, c'est un personnage qu'on peut découvrir et qui est vraiment fascinant, parce que lui, il va faire avancer les droits civiques. Finalement, la façon dont il va traiter les musiciens noirs et la musique noire, ça va faire avancer aussi les droits civiques. Il impose ses droits. Parce que dans les années 30-60, finalement, les managers, les tourneurs, privilégiaient plutôt la musique noire que les musiciens.
Oui, alors il y a aussi un phénomène où il y a beaucoup de... Quand les chanteurs noirs chantent leurs chansons, personne n'en veut à la radio, mais quand c'est les blancs qui les reprennent, tout le monde écoute et tout le monde les plébiscite. Mais ensuite, quand les blancs vont se rendre compte que le marché des noirs est un marché très important, ils vont faire en sorte que cette musique soit mise en avant. À l'inverse, vous avez beaucoup de maisons de disques noires, enfin notamment une, qui va considérer que si on modifie un tout petit peu la musique noire, on va réussir à aller chercher un public blanc. Donc tout ça, c'est des questions de business.
De business, oui. Comment vous avez sélectionné ces affaires? C'est un travail de recherche. Bon, oui. C'est une chronique dans Rock'n'Folk également, mais comment vous choisissez vos affaires?
J'ai fait un premier livre qui s'appelle Rock'n'Roll Justice, où là, il y a effectivement quelques chroniques qui viennent de Rock'n'Folk, mais c'est vraiment ma musique cœur, source, donc je la connais bien et je connaissais plus ou moins les affaires. Là, je les connaissais moins bien, donc je m'intéressais au genre, et du genre, j'arrivais à identifier des affaires un peu iconiques, et on tombe très vite sur... En rap, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la question de la liberté d'expression. Et là, vous avez des problématiques françaises aussi qui sont très intéressantes, avec Orelsan, par exemple, ou avec La Rumeur, qui sont des groupes français rap qui ont défié les gouvernements successifs. Et après, avec les Américains, vous tombez sur les très grandes affaires d'interdiction de musique, de stickers, vous savez, qu'on collait sur les CD ou sur les disques pour dire que la musique, il fallait demander l'autorisation des parents pour l'acheter. Donc vous avez ces sujets-là qui arrivent un peu comme des évidences. Et pour le blues, c'est beaucoup de dossiers qui finalement viennent du rock. Parce que si vous prenez les grands bluesmen, ils ont été copiés par Led Zeppelin. Led Zeppelin est un groupe de rock des années 70 que beaucoup de gens écoutent, qui ont vendu des millions et des millions de disques. Mais il y a des chansons qu'ils ont faites qui sont des copier-coller de grands blues. Et on les a démasqués que sur le tard. Et ils ont dû se justifier auprès des bluesmen en question, leur payer des redevances. Et surtout, et ça c'est pour les grands collectionneurs de vinyles, enfin, si vous achetez un premier vinyle de Led Zeppelin, quand il est sorti, vous n'avez que les noms des quatre Led Zeppelin. Après, il y a une action en justice, le vinyle ressort, et là, vous avez le nom d'un bluesman à connaître au nom des quatre Led Zeppelin. Donc, c'est pour les fans, mais ça montre à quel point beaucoup d'artistes blancs se sont servis chez les Noirs.
Oui, est-ce qu'il y aurait une histoire de rock sans une histoire de la black music?
Non, bien sûr, absolument. Il n'y aurait pas de... D'ailleurs, c'est Muddy Waters qui disait « The blues had a baby and they named it rock and roll ». Donc, ça montre bien le lien très fort, l'héritage très fort entre blues et rock'n'roll, bien sûr.
Donc il y a ces problèmes de propriété intellectuelle, finalement, de création, et puis il y a aussi des grandes affaires autour, par exemple, des successions avec Prince, oui. Jackson, que vous abordez aussi.
Oui.
Alors celle de Prince, elle est un peu fascinante, moi, je trouve, finalement. Vous nous en parlez un peu ?
Oui, absolument. Alors Prince, comme vous le savez, il est comme beaucoup de grands artistes, il est mort trop jeune. Mais il est mort surtout sans avoir prévu la suite, sans avoir fait un testament. Donc en gros, quand il est mort, d'abord il a fallu savoir qui était membre de sa famille, donc des recherches de paternité, ce qui arrive souvent quand les artistes meurent. Et puis ensuite, il y a entre membres de sa famille, ils se sont sévèrement disputés. C'est une banque qui a dû gérer plus ou moins la succession et ils ont trouvé un deal en 6 ans. En 6 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Et ils ont finalement réussi à trouver un deal. Une partie de l'héritage de Prince a été vendue.
Fortune colossale. Hein.
Fortune colossale. Alors Prince, ce qui était compliqué avec lui, c'est qu'il classait sa musique. Et il l'a classée avec des A+, B+, B-. Et en gros, il y a la question de savoir ce qu'on peut faire des bandes de Prince. Est-ce qu'on les exploite ou pas? Est-ce qu'on suit ses indications ou pas? Et finalement, les gens se sont servis et la famille a décidé d'exploiter le plus possible de choses et pour en vendre et pour tirer un bénéfice. Donc, et d'ailleurs, moi, ce que je trouve intéressant dans ce chapitre sur les successions, c'est que là, c'est qu'une affaire entre Noirs. C'est-à-dire qu'il y a, les Blancs sont un peu sortis de ces questions-là, mais finalement, ils s'écharpent comme toutes les familles. Jackson, sa succession aussi, c'est un problème parce qu'il y a énormément d'argent en jeu. Il y a des gens qui se sont amusés à compter ce que ces artistes valaient chaque année et ce qu'ils rapportaient. Et je crois qu'il y a trois personnes qui rapportent le plus d'argent post-mortem. Le premier, c'est Tolkien avec sa trilogie, enfin, notamment. Et je crois que le deuxième ou le troisième, c'est Michael Jackson. Donc en gros, on est sur du 50 à 100 millions d'euros par an. Et évidemment, il faut bien en faire quelque chose, quoi.
Alors, dans l'histoire judiciaire, à partir de quel moment, parce qu'on a vu qu'au début, les managers se servaient grassement du coup, sur les musiciens blacks, à partir de quel moment ils prennent en main leur image commerciale et leur économie musicale?
Alors je dirais, mais c'est peut-être d'autres gens auraient une vision différente avec la date, mais le premier à bien comprendre les enjeux et à ne plus se faire avoir par les petits blancs, c'est Berry Gordy, et c'est le manager de la Motown. Et lui, qui était quelqu'un de très très dur en affaires, d'ailleurs qui avait réussi à faire entrer dans son écurie Marvin Gaye, Michael Jackson et ses frères, il va mener une carrière très très profitable. Et ensuite, même Michael Jackson, c'est des gens qui ont pris leur carrière en main, étaient très très entourés, parce que Michael Jackson, tous les jours, il y a quelqu'un qui venait le chercher pour lui dire que Jackson avait plagié une de ses chansons. Il devait se défendre de ses plagiats, et j'en parle dans le livre, sur l'album Dangerous, mais sur un tas d'autres choses. Il a été en permanence dans des discussions sur des plagiats, et pour ça, il lui fallait un bon avocat. Et il y a un avocat qui traverse un peu ce livre, et je vous invite à vous y intéresser, c'est Johnny Cochran Jr. Alors, il y a une affaire dont on a pu reparler récemment, c'est celle de O.J. Simpson, parce que O.J. Simpson est mort très récemment. Et Johnny Cochran, c'est un des avocats de cette fameuse Dream Team de O.J. Simpson. Et c'est celui qui, grâce à qui le miracle arrive, c'est-à-dire c'est celui qui va réussir à la quitter. C'est un des avocats de Jackson et c'est un des avocats des gens assez importants dans ce livre. Et lui va se battre aussi aux côtés de Snoop Dogg, aux côtés de pas mal de rappeurs, aux côtés de Puff Daddy. Lui va essayer de faire avancer les droits des Noirs aussi, en essayant de, bah, voilà, de se battre pour leurs droits, mais de faire reconnaître les injustices des institutions américaines contre les Noirs américains. Donc dans ce livre, on a une toile de fond qui est tout de même comment la musique va avoir un impact ou une influence sur la question des droits humains ou des droits les plus, oui, les plus primaires, mais les plus essentiels pour les Noirs américains aux États-Unis, et comment la musique va façonner ces combats, parce qu'en fait, on retrouve dans ce livre, alors on ne parle pas beaucoup d'Otis Redding, et c'est dommage parce que je n'ai pas trouvé une affaire judiciaire, mais quand on pense à Otis Redding, on pense à Martin Luther King, quand on pense aux grands jazzmen qui se sont battus comme Coltrane par leur musique, ou comme Charles Mingus contre la ségrégation ou une déségrégation qui n'était pas appliquée, on est au cœur de l'histoire de l'Amérique. Et la musique est indissociable de l'histoire de l'Amérique, qui est une histoire de droit, de constitution, d'inégalité. Et dès lors qu'il y a une inégalité et qu'il y a un avocat un peu intelligent, ou des justiciables un peu intelligents, on est dans le monde judiciaire. Donc je pense que la musique américaine est profondément judiciaire. Oui. Et elle façonne la société américaine.
Et de traiter lieu, ça écrit aussi une histoire culturelle, en fait, des États-Unis à travers cette musique noire. Vous avez parlé de Snoop Dogg, il y a aussi quelques lascars quand même.
Ah oui,
dans
oui,
les
y
musiciens
en a,
ouais. Noirs, il y en a pas mal même. Vous pouvez rapidement parler
oui,
de Snoop Dogg.
Sûr.
Et puis, je me posais la question de savoir si son histoire, elle a changé aussi quelque chose dans l'histoire judiciaire par rapport à cette black music.
Alors Snoop Dogg, il est au début de je sais pas, j'imagine que enfin, ça vous parle plus ou moins, mais c'est ce grand rappeur américain qui au départ apparaissait dans des disques d'autres rappeurs. Il commence à devenir célèbre et la célébrité d'un rappeur, ça veut dire beaucoup de gens qui lui tournent autour, des envieux et des moins envieux. Et un jour, il va en voiture aller enregistrer avec toute son équipe. Et il y a un type qui sort des buissons, qui commence à parler à son garde du corps, et puis il revient un peu plus tard, et son garde du corps prend peur, il sort une arme, et il le tue presque à bout portant, parce qu'il considère que cette personne est un danger pour Snoop Dogg. Snoop Dogg ne va pas se rendre aux autorités judiciaires ainsi que son garde du corps, ils vont s'échapper plus ou moins, et quelques jours après, ils iront au commissariat, et va s'en suivre une très longue affaire judiciaire, suivie par l'Amérique, pour savoir si Snoop Dogg est complice de crimes et s'il a eu quelque chose à voir avec le meurtre de cette personne qui s'appelle Philippe Voldemerian. Il va y avoir un procès assez retentissant. Snoop Dogg est défendu par un avocat assez terrible qui s'appelle David Kenner, qui mériterait un livre à lui tout seul et qui est l'avocat des grands rappeurs un peu méchants. Et il va être acquitté. Mais l'histoire qu'on raconte au sujet de Snoop Dogg, c'est que c'est lui qui aurait tiré sur ce Philippe Voldemerian, et que c'est quelque chose qui est très su dans un certain milieu à Los Angeles, mais qui n'est pas très dit, et qui est très peu connu. Et donc Snoop Dogg s'en sort, et ça a donné lieu à une série sur Netflix, je crois, qui s'appelle « Riche et acquitté ». Et c'est d'ailleurs une des choses que j'essaie d'expliquer dans le livre. Il y a au moins deux personnes qui sont très riches et qui sont acquittées dans ce livre. La première, c'est Snoop Dogg qui fait la couverture. Mais il y en a une autre, c'est Michael Jackson. Parce que quand Michael Jackson a son affaire pénale, il finira par être acquitté. Et je pense qu'il est notamment acquitté parce qu'il a les moyens de se défendre. Et aux États-Unis, et c'est un peu le cas en France, mais dans une moindre mesure, plus vous mettez les moyens pour être défendu, et plus vous avez de chances quand même d'être acquitté alors que vous êtes plutôt coupable. Donc c'est aussi ce que dit ce livre. Et c'est aussi là un peu la... Une des réflexions dans les deux livres que j'ai fait sur l'histoire judiciaire des musiques populaires, c'est de savoir si, lorsqu'on est un artiste, lorsqu'on est plutôt privilégié, lorsqu'on a plus de moyens que la normale, est-ce qu'on est un justiciable normal ou pas ? Alors, j'ai pas encore complètement répondu à cette question, mais j'essaie de la poser avec au moins Snoop Dogg.
Tout à fait. Alors, vous nous invitez à écouter une playlist, oui, à la fin du livre. Donc, oui, on vous a préparé un blind test.
Génial. J'espère que je serai à la hauteur.
Et peut-être évoquer à chaque fois... Ouais. Que ça, voilà, ce que ça dit de votre livre. On y va.
Ah ben oui, d'accord, c'est Chuck Berry.
C'est Chuck Berry. Alors, que dire de Chuck Berry ?
Alors, Chuck Berry, lui est arrivé une histoire assez compliquée. Bon, d'abord, c'est l'exemple type de l'artiste noir, et ça c'est Johnny Cochran d'ailleurs qui le dit, l'exemple type de l'artiste noir qu'on veut interdire. Et aujourd'hui, on pourrait aussi en France se poser la question de la volonté de certains pouvoirs publics, soit d'interdire, soit de mettre en difficulté des artistes, disons, qui ne sont pas blancs. Chuck Berry, on lui a reproché d'aimer beaucoup les femmes et les prostituées, et on l'a fait condamner sur le fondement d'une loi un peu étrange qui s'appelle la loi Mann, qui est une loi qui interdit aux gens avec des prostituées de passer d'un état à un autre lorsqu'elles sont mineures. Donc en gros, il s'est fait arrêter un moment. Il a été une fois acquitté, une fois condamné. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il a eu plusieurs procès parce que le juge qui l'a condamné l'appelait nègre. C'est-à-dire que pendant l'audience, il n'hésitait pas à le qualifier de nègre et à donner peu de poids à sa parole.
Olivier, la suite.
Ah oui. Ah là, on me souffle la réponse. Non, mais c'est Screamin' Jay Hawkins. Alors, c'est lui, il n'a pas vraiment eu de procès, mais c'est quelqu'un d'assez particulier parce que il n'a pas eu la réussite qu'il aurait pu avoir. Parce qu'il avait un physique qui faisait un peu peur, qui sortait d'une tombe pendant les concerts qu'il donnait. Et à la fin, il s'est réfugié en France. Et voilà, c'est quelqu'un à côté de qui, plus ou moins, les auditeurs rock sont complètement passés.
La suivante. Alabama's got me so upset.
Tennessee's made me lose my rest. Ah oui, alors j'entends pas, je suis désolé. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Ça, je sais. Nina Simone. Alors, Nina Simone. Ah là, je passe vraiment pour l'auteur qui maîtrise pas son sujet, là, c'est pas possible. Non, Nina Simone, elle, c'est intéressant, elle a eu un procès en France. D'ailleurs, il y a une partie de ce livre et de l'autre livre qui essaie de décortiquer des procès d'artistes américains en France. Bon, Nina Simone, elle aimait pas du tout les États-Unis. On s'en souvient avec Mississippi Goddam. Et en France, ça ne s'est pas mieux passé pour elle parce qu'elle était dans une période où elle vivait très mal. Elle vivait très mal. Elle n'était pas très bien dans ses baskets. Et elle vivait dans le sud de la France. Et un jour, la maison attenante, un enfant s'amuse à faire beaucoup trop de bruit à côté et ça incommode Nina Simone. Et elle sort un pistolet qui est une sorte de pistolet d'alarme. Elle tire en direction de cet enfant et d'un autre. L'enfant est très légèrement blessé. Et elle termine au tribunal correctionnel d'un bled dans le sud de la France. C'est peut-être Aix-en-Provence d'ailleurs, c'est les années 80. Et elle est condamnée, elle ne se pointe pas au tribunal. Et la peine est quand même assez lourde. C'est de la prison avec sursis. Donc Nina Simone a un casier judiciaire, au moins en France. Ça, c'est les Rolling Stones. Voilà, je reconnais tout de suite.
Ils sont pas black.
Love in Vain. Ah non, non, c'est... ouais, Love in Vain, Love in Vain. Oui, alors là, c'est moi, c'est pas mon groupe préféré, je suis plus Beatles. Mais les Stones, ils ont des affaires judiciaires qui sont très intéressantes. Je sais pas si vous le savez, mais quand un droit d'auteur est reversé... Enfin, quand une chanson des Stones passe à la télévision, à la radio... Les droits d'auteur sont reversés ni à Mick Jagger, ni à Keith Richards, alors qu'ils écrivent des chansons depuis les années 65, peut-être un tout petit peu avant. La première chanson originale des Stones, elle doit dater de 64, sauf erreur. Mais les Stones ont eu un premier manager, qui était un très jeune comme eux, qui s'appelait Andrew Lou Goldham, qui leur a fait à un moment signer un très mauvais contrat avec Alan Klein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais Alan Klein a été aussi le manager des Beatles. Et il a beaucoup aidé les Beatles, mais il les a aussi un peu arnaqués sur les bords. Il a renégocié leurs droits avantageusement aux États-Unis, mais il les a arnaqués sur d'autres sujets. Et avec les Stones, il ne les a pas du tout arnaqués, mais il a signé un contrat qui leur permettait de renouveler leurs droits d'auteur avec leur maison de disques. Et en fait, les Stones ont mal lu. Et il y avait certainement une clause qui disait que tous les disques des Stones jusqu'aux années 69-70, parce qu'après, ils ont créé leur propre label. C'est la propriété d'Alan Klein. Et là, cette chanson, les droits sont reversés à Alan Klein, mais c'est un peu plus compliqué. C'est une reprise ou une ressucée d'une chanson d'un bluesman, Robert Johnson, qui est un bluesman très très connu. Et en fait, il y a eu une guéguerre entre Alan Klein et Robert Johnson qui a été remportée par Robert Johnson. Il y a de plus en plus de pluie. C'est le nom d'Alan Klein qui est mort, hein, qui fait en sorte que la pluie s'abat sur mes propos. Tout ça pour dire que Robert Johnson, enfin, sa succession a eu gain de cause. Mais je vous invite à regarder un peu toute cette histoire judiciaire des Stones. Il y a une photo très connue des Stones, et c'est d'ailleurs la couverture de mon premier livre sur Rock et Justice, où on voit Mick Jagger et Keith Richards qui sortent d'une prison, parce qu'ils ont passé un jour en prison, et du tribunal. Et le type à côté, qui a l'air très satisfait qu'ils aient passé une journée en prison, parce que qui dit scandale, dit être sulfureux, dit faire des recettes, c'est Alan Klein. Donc voilà, essayez, regardez cette photo qui est excessivement connue. On voit deux flics, d'ailleurs, c'est rigolo. Il y a un flic qui tire la gueule, disons, et un flic qui a l'air heureux. Donc c'est un peu le glissement des Stones vers cette espèce de très grande célébrité, et le fait que quand on sort de prison et qu'on est pris en photo, à partir de 1976, ça a beaucoup plus de gueule qu'avant. Et ça, c'est les Stones qui l'ont inventé, et c'est Alan Klein qui est derrière cette idée-là. Parce qu'après, il a vendu plein de disques, mais avec des chansons qui lui appartenaient, donc c'est l'ironie est double.
On termine.
Oui, c'est Rosa Parks dans le cast. Alors, Rosa Parks, je pense que ça parle à tout le monde, c'est cette grande militante pour les droits des Noirs américains, et qui vivait sa vie très tranquillement jusqu'au moment où, sa vie de combat et de lutte pour l'égalité, qui avait refusé de se mettre au fond du bus dans l'Amérique très raciste. Et Outkast, qui est un groupe de rap qui a eu beaucoup de succès, qui fait une chanson qui s'appelle Rosa Parks, avec une allusion à son combat, et qui dit « We won't stay at the back of the bus », donc on n'ira pas au fond du bus. Et la succession de Rosa Parks a attaqué Outkast parce qu'il considérait que c'était une sorte de diffamation que de reprendre Rosa Parks, son combat, ses propos. Et Rosa Parks a perdu en première instance, et en appel, elle a été défendue par ce fameux Johnny Cochran, qui est son dernier combat d'ailleurs, parce qu'ensuite il est mort d'une tumeur au cerveau à 65 ans. Et ils ont trouvé un deal avec le groupe pour continuer à ce que la chanson soit maintenue, mais que les droits reviennent à l'Institut Rosa Parks, qui permettait à des gens d'être insérés ou d'être réinsérés. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce monde ou dans ces histoires judiciaires de la musique, c'est le côté improbable. Enfin, on a une décision de justice entre Rosa Parks, la militante des droits humains, et le groupe de rap qui a gagné plusieurs Grammy grâce à cette chanson, mais qui finalement unir leurs forces pour travailler à un combat de réinsertion des Noirs américains aux États-Unis. Donc c'est aussi une belle histoire que promeut ce livre.
Ouais, il y en a beaucoup et c'est très intéressant. Donc il y a le livre sur le rock and roll, le livre sur la black music qu'on peut retrouver là-haut. Est-ce qu'il y en a un autre en chantier ?
Non, pas en chantier, parce que moi, je suis avocat, c'est mon métier premier, donc j'ai beaucoup de travail. Mais oui, il y aura certainement un livre sur les femmes, la musique et la justice, et je pense que ça viendra clore une trilogie de l'histoire judiciaire des musiques populaires.
Merci beaucoup, Fabrice Epstein.
Merci beaucoup, merci à vous.